Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le 17 janvier 2019, bienvenue dans l'émission Philosophie au présent à Radio Aligre, bienvenue à tous nos auditeurs pour une émission aujourd'hui que nous avons intitulée Isabelle Raviolo et moi-même, carte blanche. On va faire, on pourrait dire un hommage, ou en tout cas on voulait aujourd'hui parler de deux artistes. C'était un petit peu ce que nous annoncions à nos auditeurs lors de notre première émission. Nous voulions un petit peu évoquer nos goûts artistiques à travers cette émission qui est issue du Collège international de philosophie et comme on le sait qui pratique la philosophie par transversalité et par mélange au sens positif du terme de la philosophie et de ce qui est au dehors de la philosophie et la concerne pleinement. Aujourd'hui nous allons donc diviser notre émission en à peu près 2 fois 30 minutes sur deux cartes blanches consacré tout d'abord à Rachid Taha, qui nous a quittés il y a quelques mois déjà. Ça a été une grande perte pour la chanson française. Il est mort exactement le 12 septembre 2018 à 59 ans. Et voilà, on a décidé aujourd'hui de revenir sur ce grand chanteur. Bon, il est vrai qu'on a beaucoup parlé de sa disparition, mais quelque peu occulté par un autre chanteur qu'on appelle grand, mais là, tout le monde peut peut-être en douter. En tout cas, voilà, pour présenter ce second moment également de l'émission, cette seconde carte blanche sera consacrée à l'artiste plasticien Thomas Saraceno, qui a fait une exposition très récemment au Palais de Tokyo et qui s'appelait cette exposition « On Air ». Là, c'est Isabelle Raviolo qui s'en occupera. Voilà, alors commençons tout d'abord par Rachid Taha et une petite présentation avant de le présenter musicalement. Donc il est né en 1958 à Saint-Denis-du-Sigue, en tout cas ce qu'on appelait Saint-Denis-du-Sigue à l'époque, et aujourd'hui il s'appelle Sigue et qui est à 50 km d'Oran en Algérie et qui dépend de la vitaya de Mascara. Alors, ce qui m'avait intéressé à Sigue, c'est pour la petite anecdote, mais qui est assez troublante, c'est que cette petite ville de Sigue, en 1841, des colons français sont venus s'installer, hein, puisqu'on est en pleine colonisation française. Et ces colons français qui viennent s'installer sont aussi, enfin, ce sont des gens issus de Franche-Comté ou de Lyon, qui ont, d'inspiration fourriériste et qui ont voulu fonder une espèce de phalanstère miniature, hein, c'est-à-dire une association de familles dont on pourrait dire qu'elle cherche l'indépendance financière, économique, sans installer l'idée de salariat. Ça m'avait beaucoup touché. Pourquoi ? Parce que historiquement, entre Sigue et la ville de Lyon notamment, où Rachid Taha résidera pendant des années, il y a comme ça, il y a eu des échanges très tôt. La famille de Rachid Taha était issue de Sigue et cette ville avait une relation très forte avec Lyon, que Rachid Taha connaîtra par la suite, qui sera la ville dans laquelle il va commencer à faire de la musique. Alors, je vais prendre un petit peu, essayer de choisir des musiques en rapport avec les grandes dates de la vie de Rachid Taha. Et peut-être on pourrait commencer par ce qui nous a peut-être tous marqués, c'est en 1981, le groupe Carte de Séjour. Je propose, avant de reparler de ce groupe, d'écouter la première chanson qui a véritablement marqué un petit peu l'entrée de ce groupe dans la musique française. C'est la reprise de « Douce France » de Charles Trenet.
Des souvenirs familiers. qui veut dire familier. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans parole et une chanson d'autrefois.
Voilà, c'est le groupe Douce France et la reprise de Charles Trenet. Bon, quand on a la version originale Douce France de Charles Trenet, on s'aperçoit du travail vraiment de musicien de Rachita et de son groupe qui est extraordinaire. J'invite vraiment les auditeurs à faire cette expérience que j'ai faite moi-même, de mettre les deux versions ensemble et on s'aperçoit de la puissance de ce musicien. Alors Rachita, qui est donc né en Algérie, fait partie voilà de ces gens qui sont arrivés en France et qui ont toujours vécu le déracinement, et on verra avec les chansons qui ont été choisies aujourd'hui à quel point ce déracinement, l'idée du banni, de celui qui est exilé, de celui qui est entre deux pays qu'il aime, mais finalement qui crée en lui une indétermination en termes de nation. On verra donc que toute cette thématique traverse l'œuvre de Rachita. Alors, je le disais à l'instant, Rachita quitte avec sa famille la ville de Sig en Algérie, près d'Oran. Ils arrivent en Alsace, à Sainte-Marie-aux-Mines, en 68, et Rachita a 10 ans à cette époque. C'est plutôt un élève turbulent, un adolescent un peu turbulent, mais qui, dans son adolescence, apprend à parler, à écrire l'arabe classique en écoutant les chansons d'Oum Kalsoum. Nous avons d'ailleurs le projet de nous intéresser à Oum Kalsoum et de faire découvrir plus précisément à nos auditeurs cette grande chanteuse égyptienne. Et puis, voilà, il fait des études de comptabilité, des petits boulots, il vend des livres, etc. Puis il travaille dans une usine, l'usine Thermix, du côté de Lyon. Et puis en 81, c'est ce que je vous disais à l'instant, il rencontre Mokhtar Amini, et il fonde le groupe Carte de Séjour, avec en 82 une autre rencontre qui va vraiment fonder le groupe, Jérôme Savy. Et ce groupe, si on s'en souvient bien, prône l'intégration et la tolérance envers les immigrés. Et c'est ainsi que le groupe participe à la marche pour l'égalité et contre le racisme de Marseille, marche qui se déroulera de Marseille à Paris, ce qu'on a appelé la marche des beurs. Bon. On a en tête toute cette grande époque des SOS racisme. Et donc en 84, le groupe Carte de Séjour sort l'album Roromani. Et en 86, comme nous venons de l'écouter, Douce France, qui connaîtra un énorme succès, notamment parce que voilà, on plaçait davantage Charles Trenet du côté de la collaboration, ce qui était strictement faux. Et du coup, on a vu en cette reprise de Rachida, il y a des interprétations qui disent bon que c'est une reprise un peu subversive, qui placerait Tah du côté d'une certaine idée de la France. Évidemment, on a tous compris que c'était absolument pas le cas, puisque la reprise de Douce France, c'est particulièrement donc cette idée de et en même temps s'intégrer et en même temps ne jamais oublier d'où l'on vient, ses racines. Bon. On précise que le clip Douce France a été tourné par Cyril Collard, si nos auditeurs regardent ce clip, qui était donc le réalisateur des Nuits Fauves. Voilà. En 89, Carte de Séjour va se dissoudre et Rachida commence une carrière solo avec un premier album qui s'appelle Barbès. On est au moment de la première guerre du Golfe. Et puis en 95 va suivre un album qui s'appelle Olé Olé. Et voilà, avec une pochette de Jean-Baptiste Mondino, si on l'a bien en tête, une référence aux damnés de Visconti, où Rachida est blond, parce que le film de Visconti parle de la montée du nazisme. Donc il y a une espèce comme ça de toujours ces préoccupations dans ces années 80-90 d'une montée de l'extrême droite, à laquelle Rachida va toujours être très sensible. Et cette pochette est par elle-même déjà une interrogation sur ce qui se passe politiquement dans cette France qui voit des partis d'extrême droite prendre des voix. Et puis il y a en 98, et j'ai choisi de m'arrêter, ce magnifique album Diwan, qui est une compilation de compositions. Alors, de plusieurs origines musicales, de Shaabi, de musique kabyle, et puis effectivement de raï, hein, puisque Rachida fait partie de ses contributeurs à la musique raï en France. Alors, j'ai choisi on va peut-être écouter coup sur coup deux chansons, pour pas faire perdre du temps à nos auditeurs, et comme c'est extrait de l'album Diwan, Ya Raya, qui est une musique et une chanson écrite par Daman El Arachi, et Yal Menfi, musique et chanson écrite par Akli Yaten. Voilà, je reviens vers vous à l'instant pour vous parler un petit peu plus de ces auteurs.
الغايب في بلاد النشعل تاع يامن.
Voilà, nous venons d'écouter deux extraits de l'album Diwan de Rachita. Voilà, une carte blanche aujourd'hui à Rachita et que nous poursuivrons la prochaine fois. Alors, pour revenir sur ces deux chansons qui viennent de passer, Ya Raya, qu'on peut traduire par le partant, c'est-à-dire bon, l'exil et ses conséquences douloureuses, avec cette idée d'un retour au pays omniprésent, mais un retour avec toute la difficulté que suppose ce retour, peut-être impossible, et même s'il est possible, dans quelles conditions se fait-il. Et puis, cette seconde chanson, Ya Memphi, chanson également sur la question de l'exil, l'exilé, le banni, voilà comment ça peut être traduit. Et c'est une chanson qui parle des déportés algériens du Pacifique à la suite de la révolte des Mokrani en 1871. Juste pour une petite précision, le Diwan, ce titre de l'album de Rachita, vient donc de la musique Diwan ou Gnawi, Gnawa algérienne, qui a pour origine en fait les esclaves noirs originaires d'Afrique subsaharienne. Donc c'est vraiment voilà un titre sur l'idée de ceux qui sont voilà qui sont exploités, qui sont issus de l'esclavage, d'une forme de colonisation aussi, hein, puisque ça rentre dans cet aspect-là. Voilà. Alors comme on l'a dit de Rachita, Rachita. Il est vraiment fait partie des grands introducteurs de la musique raïa en France. Cette musique populaire algérienne qui est née au début du XXe siècle dans la région d'Oranie. Voilà, près de Sidi Bel Abbès. Et que signifie ce mot raï? Alors, il y a deux significations. Il y a cette idée de. C'est une façon de voir, une opinion, un point de vue, un conseil. C'est l'idée d'objectivité aussi, de pensée, de jugement. Et c'est issu, le raï, des poètes de tradition méloune, hein, c'est-à-dire une poésie populaire écrite en arabe maghrébin et de style bédoui, hein, c'est-à-dire un style issu de la ruralité. Donc une musique populaire oranaise qui est apparue, ce méloune, hein, de style bédoui est apparu au XIXe siècle et qui est donc l'ancêtre du raï. Et puis il y a une autre explication sur la signification du raï, à cette musique d'improvisation, qui est aussi une musique d'improvisation, c'est l'interjection ya raï, qui veut dire va, dit. Donc c'est utilisé pour relancer l'inspiration des musiciens et des chanteurs dans les fêtes rituelles. Alors le raï a deux tendances. Il a une tendance officielle, c'est-à-dire une musique qui célèbre la religion et qui célèbre les traditions, les mariages, les enterrements, et il a une autre voie, un registre irrévérencieux qui est une forme d'échappatoire aux rigueurs de la morale islamique et du coup ce raï-là est davantage souterrain, évidemment mal vu des pouvoirs en place, et il est chanté dans les souks et dans les tavernes, et on sent chez Rachita toujours ce côté de ce raï irrévérencieux, hein, qui chante la fête, qui chante tout ce qui est opposé à une morale rigoriste. Alors ces deux chansons que nous avons écoutées, sont des chansons issues de la musique shahabi, de la musique kabyle. El Arachi, Daman El Arachi, qui a écrit Ya Raya, qui est musicien algérien shahabi, 1926-1980 sont ses dates de naissance et de mort. Et puis Yal Memphis, c'était Akli Yayaten, né en 1933. Toujours vivant et musicien kabyle. Voilà, il y a aussi, on pourrait dans cet album Diwan préciser aussi toutes les autres influences de Rachita, et notamment Sheikha Remiti, qui est la mère spirituelle du raï traditionnel bédoui. Voilà, grande femme qui a inspiré Rachita. Alors je propose peut-être de passer à la seconde partie de notre carte blanche, et nous reprendrons Rachita la semaine prochaine. On s'intéressera au grand moment de 1, 2, 3 soleil, et nous reprendrons cette carte blanche à Rachita. Et je termine juste sur la traduction de la dernière chanson que nous avons passée, Yal Menfi, et je la lis à nos auditeurs, donc le banni. Dites à ma mère de ne pas pleurer, le banni. Dieu n'abandonnera pas son fils, n'abandonnera pas ton fils, pardon, le banni. Et quand il est entré au milieu, et on m'a dit, as-tu du tabac? Et moi, parmi eux, j'étais stupéfait quand ils m'ont emmené au tribunal. Les grands et petits gendarmes, avec une chaîne qui pesait un quintal. Ils m'ont donné un an et un jour. Dès mon entrée, ils m'ont rasé la tête et ils m'ont donné une couverture et une paillasse. Ils m'ont greffé un gardien. À 20 heures, tu entends, à 20 heures, mon cœur, pourquoi es-tu dégoûté? La soupe est toujours la même, la gamelle est pleine d'eau et les cafards nagent dedans. Voilà, vous trouverez cette traduction sur Last Night in Orient. Et j'en termine là pour cette petite carte blanche à Rachita sur la première partie musicale de son existence. Et on terminera la semaine prochaine. Je laisse la parole à Isabelle Raviolo pour donc un artiste qui a récemment fait une exposition au Palais de Tokyo et qui s'appelle Thomas Saraceno.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Merci Nathalie. Alors oui, carte blanche à l'artiste argentin Thomas Saraceno, l'artiste de 45 ans, passionné d'astrophysique, qui déploie tout un univers poétique qui n'est pas sans nous interroger. En effet, au Palais de Tokyo, il nous immerge dans son monde, un monde de sensations naturelles, surnaturelles on peut même dire, qui va nous déplacer aux confins de l'espace-temps, des lieux, des catégories connues. Et ce monde va nous déloger en même temps de toutes nos habitudes de pensée, nous déplacer, nous réapprendre à voir et à écouter la nature et notamment le monde des araignées. En effet, Saraceno va nous faire émigrer et remettre en doute nos vieilles opinions sur ces petites tisserandes noires qui parfois sont dans nos appartements. Le souffle poétique de cet artiste, de son œuvre complexe, va puiser dans une contemplation de la nature, de l'univers, du cosmos, du monde animal, mais du monde végétal aussi. Et comme Paul Klee le disait dans la théorie de l'art moderne, Saraceno ne rend pas le visible, il rend visible. Il rend visible en déployant les interdépendances entre ces mondes, pensés jusqu'alors séparément, et en bousculant une perception de l'environnement qui va nous faire pénétrer dans un univers totalement insolite. Cette exposition au Palais de Tokyo s'appelle « On Air ce titre dit tout de suite que l'artiste argentin va relier des fils entre des particules de poussière cosmique, des toiles d'araignées, mais aussi des mondes flottants. Féru d'écologie, d'astrophysique, comme je l'ai dit, Thomas Saraceno s'intéresser plus particulièrement aux araignées et son objet de recherche artistique va justement s'intéresser en particulier à leurs toiles. Ces toiles qu'il va exposer à Paris, mais aussi à New York, à Berlin, à Venise, démontrent déjà chez ce plasticien argentin une originalité et une force tout à fait exceptionnelle, puisque à travers toutes ces toiles, ils mettent en perspective les énergies en interrelation, autant de mondes insolites qui vibrent dans les yeux et les oreilles des spectateurs et qui pourraient se qualifier d'œuvres héraclitéennes qui naissent de l'attention aussi portée au mouvement incessant du cosmos et du microcosme. Particules, poussière cosmique, vie furtive qui bruissent dans l'infini, autant d'éléments où finalement notre perception du monde, notre écoute aussi, s'engage à travers des moyens poétiques qui se déploient ici et qui nous font entendre des capacités de perception qu'on n'aurait pas imaginées en fait, en rendant nos esprits plus ouverts à ce minuscule, à ce microcosme, comme si on entrait dans un univers quantique, un univers où l'imperceptible touche le perceptible, où les fils de ces toiles d'araignée nouent à nos yeux tout un monde de détours, où quelque chose de fascinant se déploie, comme si l'on touchait l'éternité. Comme si l'on touchait l'éternité et comme si Thomas Saraceno faisait s'entrelacer un triple enjeu. Un enjeu à la fois esthétique, à travers ses toiles d'araignée, à travers ses mondes flottants, ses poussières d'étoiles qu'il met en lumière, mais aussi un enjeu éthique, puisqu'il interroge le rapport de l'homme à l'environnement, et un enjeu métaphysique, il interroge aussi ce qu'est l'homme. Il rejoint ainsi les questions de Kant à la fin de la logique. Qui suis-je que tout ? Que puis-je savoir ? Que dois-je faire ? Et que m'est-il permis d'espérer, moi, en tant qu'homme, sur cette planète ? Alors, il y aurait trois façons de l'envisager, cet artiste, à travers cette coexistence harmonieuse qu'il met en place dans l'univers symbolique de l'araignée, de ces présences d'architectes discrètes et universelles qui tissent leur toile autour de nous dans des espèces d'hybrides webs, comme ils les appellent, et qui nous rappelle aussi les toiles que nous tissons, aussi bien virtuelles que réelles, ces toiles relationnelles entre nous, la toile du web, mais aussi des espaces qui sont des espaces de dialogue, des espaces visuels, des espaces d'écoute, où voir et toucher déploie un langage aussi bien du corps que de l'esprit. Tout est entrelacé chez Thomas Saraceno et interroge finalement l'identité de l'humanité et ses interrelations avec le non-humain, le végétal, le minéral, mais aussi l'animal et particulièrement l'araignée. C'est donc au monde dit muet de l'animal que Thomas Saraceno va donner la parole à travers cette araignée qui occupe une place centrale dans cette exposition au Palais de Tokyo On Air. Ces toiles d'araignée qui ne sont pas que des productions de l'animal, mais aussi le déploiement de son corps et de son système perceptif. On sait que l'araignée est aveugle, mais qu'elle tisse ses toiles à travers des sensations, un peu comme les chauves-souris se déplacent par écholocation. Et bien là, on voit que ces sensations de l'araignée, c'est autant de collaboration avec l'environnement. Et elle nous renvoie, ces araignées, une manière d'appréhender nous-mêmes notre rapport à l'environnement. Leur collaboration exprime en effet tout un univers symbolique pour Thomas Saraceno et étant d'un champ de conscience dans l'inframince qui qualifie des événements ténus de la réalité, voire même des écarts imperceptibles entre les phénomènes. Ah ben, c'est à cette acuité perceptive que nous renvoie l'araignée dans une intensité de l'attention que Thomas Saraceno nous invite à réexplorer dans tout son univers poétique au long des salles du Palais de Tokyo. Donc, finalement, cette attention de l'araignée va nous servir un peu d'archétype et de modèle. Et on retrouve, à travers cette exploration esthétique, un enjeu éthique qu'on avait déjà présent dans les textes de Simone Veil, dans L'attente de Dieu, où Simone Veil déploie tout un passage sur l'attention, la force et l'intensité de cette attention, qui consiste à suspendre sa pensée, à la laisser disponible, vide et pénétrable à l'objet, à maintenir en soi, même à proximité de la pensée, mais à un niveau intérieur et sans contact avec elle, les diverses connaissances acquises qu'on est forcé d'utiliser. Dans ce passage de l'attente de Dieu, on voit que l'attention, elle s'éprouve à la contemplation de la toile de l'araignée, d'un chef-d'œuvre qui file par un écart minime à l'équilibre sur des lignes de force invisibles, tout un univers poétique que l'œuvre de Saraceno réexplore, qu'il rend visible par l'interaction avec l'environnement, qui se connecte avec des régions entières, des voisinages du représentable en quelque sorte. Et c'est déjà dans les années 60, le philosophe Michel Serres qui avait formulé une ontologie de la tisserande à travers les figures de Pénélope et de Perséphone, qui étaient ces tisseuses des péplos cosmiques, selon la tradition orphique. Ces deux femmes qui ont été, on le sait, des héroïnes cognitives pour Michel Serres. Et c'est en critiquant justement l'axe sujet-objet que Serres opte pour une analyse du réel en réseau. Un réseau où les nœuds sont aussi importants que les liaisons entre elles et où les nœuds et les liaisons donnent des points de vue d'analyse complémentaires. En fait, dans ce langage propre à Saraceno qui mêle la physique, la métaphysique, l'esthétique, il y a finalement une préoccupation sur les théories d'Einstein, sur cette théorie relativiste d'Einstein, relativité générale, 1917, mais aussi sur tous les travaux de Niels Bohr, d'Heisenberg et du langage de la physique quantique avec cette dualité du champ particule où chacune des deux formes va se manifester selon un mode d'observation en fait. Là où le monde bipolaire du sujet et de l'objet crée un espace-temps homogène, le cadre supposé d'action efficace, la communication des nœuds d'un réseau va pouvoir déceler des ordres possibles d'un espace-temps qui sera strié et plié sur lui-même. Et dans ce réseau, toute la structure, par ses interactions, va penser justement l'unité du cosmos. En Air, c'est une exposition qui met en lumière cette unité, cette matrice sonore, son rythme, son harmonie. Et en cela, on peut dire que Saraceno rejoint les analyses de Michel Serres, mais aussi celles de Pythagore. Pythagore, qui avait déjà en son temps postulé que le plaisir que porte l'écoute d'une consonance, c'est bien la preuve d'une homologie entre le cosmos interne, l'âme, et le cosmos externe, l'univers. Alors c'est vraiment cette exploration qui nous est proposée au Palais de Tokyo et qui rejoint les préoccupations des philosophes à travers tout un refrain cosmique, un miracle de la mise en résonance de l'homme-monde ouvert au possible. Alors Thomas Saraceno nous fait éprouver ce miracle justement dans sa langue artistique qui croise la science et l'architecture. Il emploie cette notion de consonance qu'il appelle « cosmic yam session ». Autrement dit, l'artiste araignée va déployer sa toile poétique in medias res et nous inviter à revoir le monde avec des yeux d'enfant attentif. Autrement dit, à recouvrer toute une intensité de l'œil qui écoute. Ça n'a pas de sens, au fond, pour lui, de séparer l'araignée de sa toile, parce que la toile sort du corps de l'araignée. Comme ça n'a pas de sens de séparer l'artiste de son œuvre. Et finalement, si l'artiste ne fait qu'un avec son œuvre, il y retourne aussi souvent comme l'araignée, qui finalement, dans son déploiement de Tisserand, repense sa toile comme un succès d'année d'elle-même. Et c'est vrai que l'araignée entend sa toile pas comme un simple outil ou comme un mécanisme sensoriel, mais comme un cerveau qui est façonné aussi par sa victime. L'araignée, donc, ne peut pas voir l'insecte qu'elle capture, mais elle le piège à travers des réseaux de sensations et des vibrations qu'elle ressent sur sa toile. Et c'est justement ce que veut faire Saraceno. Dans cette intersection de différentes formes de cécité qui produit finalement un lien collaboratif, une sorte de partenariat de conception, l'artiste argentin nous fait éprouver un paradoxal partenariat ou lien dans lequel une cécité mutuelle, finalement, conditionnerait les partenaires respectifs et où les harmonies ne seraient pas limitées à un duo araignée-insecte, en fait. Donc, on voit bien que ici, ce que Saraceno entend faire avec cette exposition au Palais de Tokyo, et qui est complètement original, très novateur, c'est de ne pas se contenter de rendre visible quelque chose qui reste habituellement invisible à nos yeux, mais d'aller nous déloger des vieilles et familières opinions en nous faisant habiter des confins du visible, en nous faisant immerger dans une expérience, l'expérience d'une naissance, d'un non-savoir, où les liens se font davantage tacites et tactiles, vibratoires, que explicites, explicables, dans une tradition philosophique classique du rapport bipolaire sujet-objet. Alors c'est vrai que Thomas Saraceno, en revenant à la toile d'araignée, au monde de l'araignée, montre que finalement l'œuvre se déploie en réseau et peut être génératrice de structures éphémères, d'apogées, et pour lui il s'agirait alors, en partant de ce monde de l'araignée, de réexplorer toute une aérotopie. Contre l'entropie, justement, vouée à la dissolution, selon l'artiste. Donc c'est bien la recherche d'éclaircies plutôt que de fondements solides terrestres. C'est pour ça qu'elle s'appelle En air, cette exposition. Parce qu'il va réexplorer des mondes flottants. C'est une recherche d'une réconciliation, toujours, entre l'harmonique, qui est support de l'ordre, et la thermodynamique, qui prédit la fin de tout ordre, au fond. Donc, Saraceno nous fait quitter l'espace-temps, nous fait quitter la Terre pour entrer dans l'air, le monde de l'air, qu'il nous fait toucher comme on toucherait les étoiles à travers des approches différentes du voyage, où la conscience déplacée de l'homme questionne ses relations avec la nature. La toile devient alors aussi bien une extension, on l'a vu, qu'un symbole d'interconnectivité. Elle nous permet un retour à nous-mêmes, à notre présent futur. Et là, dans cette expo, quand on traverse les pièces du Palais de Tokyo, on est tous interpellés. On est tous interpellés dans notre conscience d'hommes en proie à la question de l'environnement, et puis tous interpellés dans notre manière d'habiter le monde et forger notre quotidien, nous qui sommes tout le temps en train de taper sur nos claviers, nos tablettes, nos smartphones. Comment arriver à développer des réseaux de compétences tactiles en recueillant continuellement des lignes d'information invisibles qui composeraient notre environnement tout en ayant conscience et sans en être l'esclave. Ce World Wide Web, comment le repenser pour Thomas Saraceno ? Eh bien, à partir du modèle de l'araignée, justement. Ces araignées qui incarnent pour lui le modèle de notre présent, c'est une sorte de simulacre, au fond. C'est pas tellement un futur déjà présent, technocratique et apparemment intangible de la vie en ligne ou de la vie connectée, mais c'est aussi une urgence actuelle et immédiate pour lui, qui manifesterait l'état des relations écologiques et leur fragilité, comme la toile d'araignée est fragile. Donc c'est bien un travail de précurseur de Jacob von Uexküll, ce grand biologiste, qui a exploré dans Monde animaux et monde humain la conception, finalement, de ce rapport de la toile sémiotique, une compréhension du monde qui n'est ni parfaitement instinctive ou innée, ni purement construite ou culturelle, mais qui est le résultat d'un mélange fascinant de deux dimensions, en fait. C'est ça qu'il nous fait explorer, et qui rejoint la conception du biologiste Jacob von Uexküll. Une toile semblable à celle d'une araignée qui résulterait en partie d'une construction sociale et personnelle, mais dont les filaments, quoique invisibles comme ceux de l'araignée, pourraient avoir des effets concrets sur le monde. Alors comment le repenser ? Ben pour l'araignée, on l'a vu, la toile, c'est un instrument évolutif qui n'a pas de borne précise, une extension quasi invisible de son propre corps, dont l'architecture est faite d'un interconnexion infinie. Eh bien, c'est bien un instrument illimité, quoique temporaire, qui n'est pas finalement là pour dire quelque chose de précis, mais qui est bien plutôt une caisse de résonance réceptive pour écouter, pour recueillir des impulsions ou des signaux, qui est toute la toile sonore du monde. Et c'est là que l'oreille humaine doit se faire attentive et réexplorer ce monde de l'araignée. Une attention de qualité, une attention profonde aux vibrations du paysage élargi dans cette écologie acoustique de la musique, des arts sonores, comme Nathalie vous l'a présenté à travers Rachita. Eh ben, on peut se dire que l'araignée nous fait reconnecter à cet espace musical dans l'attention d'une écoute où le compositeur attend de l'oreille de celui qui écoute une véritable réception, pas seulement quelque chose de passif, mais une passivité active, un chant du consentement à l'écoute véritable qui serait une manière de toucher l'éternité, de toucher cet instant d'éternité en tissant une toile entre ciel et terre. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire de repenser cet homme aérien, de cette multiplicité des visages de l'homme aérien, de se déployer dans ce réseau de l'araignée qui serait comme une métaphore de l'organisation de nos concepts. Ben, ça viendrait finalement à travers toute une dimension métaphysique. Comment finalement repenser les métaphores de l'échelle hiérarchique, celle de l'arbre, celle du végétal, qui déploie ses branches à partir d'un tronc commun, celle des réseaux d'araignées qui mettent en relation non des points géométriques, mais bien des territorialités, des lieux enveloppant l'objet. Eh bien, comment repenser cette territorialité, comment réhabiter son territoire d'homme à travers peut-être ces interactions qui constitueraient une autre constante de l'œuvre de Thomas Saraceno, à travers ces réseaux qui mettent en scène la complexité de la communication qui se fait par territorialité de socialités différentes, occupant plusieurs échelles peut-être, et qui serait très souvent le symbole d'un autre message, le symbole d'un métissage, le symbole qui nous permettrait de repenser en air des interactions fortes, des interactions faibles, des manières de d'interagir entre nous et non pas de séparer les milieux entre eux, mais de les faire se communiquer. Et c'est bien tout le sens des dernières salles du Palais de Tokyo, où l'on voit les villages des nuages, comme le dit Thomas Saraceno, qui invitent à penser de nouveaux modes de création de valeur et qui nous invitent nous-mêmes, spectateurs, à trouver de nouveaux modes de participation dans la création, mais aussi dans la récupération de matériaux, dans l'avenir écologique qui est le nôtre, hein, où les ballons de l'aérosène, en plusieurs endroits du monde, sont pour Thomas Saraceno des communautés de pratiques distribuées et qui, à différentes échelles d'organisation, permettent de repenser une immersion dans les quatre coins du cosmos, une société qui s'expérimenterait à travers un instrument que ses propres éléments constitutifs, les tisserands tissus, construiraient constamment. Alors Thomas Saraceno lancerait ainsi implicitement un appel que Gilles Deleuze et Félix Guattari ont formulé avec une grande acuité philosophique. Au lieu que le peuple et la terre soient bombardés de toutes parts dans un cosmos qui les borne, il faut que le peuple et la terre soient comme les vecteurs d'un cosmos qui les emporte, justement, en air, à travers le cosmos qui sera lui-même art. Faire de la dépopulation un peuple cosmique et de la déterritorialisation une terre cosmique, c'est bien le vœu de l'artiste artisan, ici ou là, localement. À travers ce passage de « Mille plateaux » que j'ai lu, Thomas Saraceno dit être influencé par les trois écologies de Guattari-Deleuze. Trois écologies qui concernent la terre, le monde social, mais aussi le monde intérieur. Donc ces villes des nuages que Thomas Saraceno se propose en tant qu'expérience de pensée comme de possibilité artistique de nous présenter au Palais de Tokyo et qui finalement donne tout un caractère aux milieux sensibles séparés en plusieurs échelles et régions de voisinage suivent en quelque sorte tout un fil directeur où on peut voir une image de la gravité, selon Einstein, quand la toile est courbée par le poids de l'araignée, ou celui du visiteur de l'exposition lui-même, comme une image de la théorie quantique aussi, à travers les vibrations de la toile et les fils lancés dans le vide, qui, tout à coup, finalement, sondent tous les univers possibles. De la relativité einsteinienne à la physique quantique de Niels Bohr, on retrouverait l'unité tant cherchée par l'astrophysique, une unité qui serait en quelque sorte celle même d'une modernité comme Baudelaire l'explorait dans Le peintre de la vie moderne. Une modernité, disait Charles Baudelaire, c'est bien le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art dont l'autre moitié est l'éternel ou l'immuable. Ainsi, chez Thomas Saraceno, au Palais de Tokyo, la toile flotte, elle s'étend, mais elle vibre aussi. Et elle nous fait repenser le système d'une communion avec l'univers et entre nous, entre les hommes et entre toutes les espèces vivantes. Comment retrouver dans le poétique d'une toile l'infiniment grand de l'univers? C'est tout l'enjeu, Thomas Saraceno, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. C'est le lien dans sa discontinuité apparente que cet artiste argentin interroge dans son art. Un lien qui n'a rien d'une évidence, mais qui structure pourtant notre présence au monde dans un horizon de possibles à réinventer ensemble vers d'autres mondes. Et pour conclure, je dirais bien que Thomas Saraceno, questionnant notre géocentrisme et nos catégories, nous fait passer de l'infiniment petit à l'infiniment grand en nous faisant migrer vers des dimensions inaperçues et inconnues où son enjeu éthique en air dans cet ensemble immense du Palais de Tokyo interroge dans sa complexité, la complexité des agents qui constituent l'univers visible et invisible, humain et non humain, perceptible et imperceptible, toutes les voies innombrables du cœur vivant qui forment la symphonie de la vie, une symphonie qui nous appelle à vivre, à écouter, à créer. Et comme nul autre artiste, il a bien célébré cette polyphonie du cosmos et tenté une rencontre entre l'homme et l'animal au travers d'une série d'œuvres inter-espèce, pourrait-on dire, de dialogue entre les êtres, où les temps forts de son projet rassemblent aussi bien le public, l'artiste, que toutes les espèces vivantes dans leur processus d'écoute, de jeu, d'harmonisation mutuelle, où finalement les concepts vont procéder davantage de l'aléatoire et de l'improvisation plutôt que d'un cadre rationnel, et où la vie l'emporte à travers le thème même de cette résilience à laquelle Thomas Saraceno nous invite. Merci beaucoup.
Merci Isabelle. Eh bien, nous poursuivrons ces cartes blanches sur Thomas Saraceno et sur Rachita lors de notre prochaine émission. Merci beaucoup à tous nos auditeurs et à très bientôt. Merci.
Toi t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi t'es qui, t'es quoi?
N'oublie pas qu'avant toi,
il y en a d'autres que toi.
Et qu'après toi, crois-moi,
il y en aura, il y en aura. T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi t'es qui, t'es quoi? De la bavure
et décollé au mur,
et dans ce tas d'ordures,
y aura-t-il toi, y aura-t-il moi,
y aura-t-il toi, y aura-t-il moi, y aura-t-il les langues de bois, des selles en tout cas, y en aura, du sang qui coule, y en aura pas.
T'es qui toi, t'es qui moi,
t'es pas qui, t'es pas quoi,
t'es qui toi, t'es qui moi,
mais toi, t'es qui, t'es quoi. Y aura-t-il toi, y aura-t-il moi, y aura-t-il les langues de bois, des ciels en tout cas, y en aura, du sang qui coule, y en aura pas.
Qu'une fois
où ça ne finira,
mais tout ça,
c'est entre toi et moi. T'es qui, dis-moi si t'es pas toi. Si t'es pas moi, dis-moi t'es qui.
Qui toi? Qui moi? Qui toi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
T'es pas qui, t'es pas quoi?
T'es qui toi, t'es qui moi?
Mais toi t'es qui, t'es quoi? N'oublie pas qu'avant toi,
y en a d'autres que toi.
Et qu'après toi, crois-moi,
y en aura, y en aura. Toi mais t'es qui moi si t'es pas moi, dis-moi t'es qui. T'es qui dis-moi si t'es pas toi, si t'es pas moi, dis-moi t'es qui.
T'es qui
si t'es pas moi, dis-moi t'es qui. T'es qui dis-moi si t'es pas toi,
dis-moi
si t'es pas moi, dis-moi t'es qui.
Qui toi?